From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Et la musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Peter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Chers
frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la quatrième session de la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous souhaitons la bienvenue aux autorités générales et aux présidences générales des auxiliaires qui assistent à cette session ce matin. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg, accompagné à l'orgue par Richard Elliott et Andrew Unsworth. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Ô toi, vérité » et va maintenant interpréter « Le jour paraît, chassant la nuit ». Ensuite, la prière d'ouverture sera faite par Marlene K. Jensen, qui a été relevée hier de ses appels de membres du premier collège des 70 et d'historiens de l'Église.
Heavenly Father,
Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce matin d'être rassemblés ici en conférence générale par ce beau, belle journée de samedi, de dimanche. Nous te remercions, Père Céleste, pour ton amour, pour tout l'intérêt que tu nous portes. Nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils pour vaincre la mort et nous donner du pouvoir pour surmonter nos péchés dans cette condition terrestre. Nous te remercions pour le plan de vie et pour la relation que nous avons avec toi et toi avec nous. Pour notre famille, le mariage, et pour les bénédictions que nous avons dans ton Église et dans ton royaume. Nous te remercions que plus tôt dans l'histoire de l'Église, que tu aies établi le modèle des conférences sur une base régulière. Nous apprécions la force, l'unité, l'édification que nous ressentons lorsque nous sommes rassemblés comme aujourd'hui. Nous te remercions des contributions de longue date du cœur du tabernacle à notre édification spirituelle. Pendant cette session, Père, nous te prions pour que ton esprit bénisse ceux qui s'exprimeront et nous qui écouterons, afin que nous en sachions davantage quant à ton Fils. Aide-nous d'avoir un désir plus grand de changer nos vies et de pouvoir mieux contribuer à aider les autres hommes sur cette terre. Aide-nous à être sensibles aux besoins des autres, à être des instruments envers ceux qui se sentent seuls, qui sont malades, qui ont des besoins que tu connais. Nous te prions pour ces choses afin qu'il y ait de la paix sur la terre, afin que par nos œuvres, d'autres puissent voir la véracité de l'Évangile et te glorifient, toi et ton Fils. Nous te demandons cette bénédiction pour ouvrir cette session de la conférence au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre Henry B. Herring, premier conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de Boyd K. Packer, président du Collège des Douze Apôtres. Le chœur chantera ensuite « Le chemin est-il long ?» Ensuite, Linda K. Burton, présidente générale de la Société de Secours, nous adressera la parole.
In the depths of his anguish, in Liberty Jail.
Dans la prison de Liberty, au plus profond de son angoisse, Joseph Smith, le prophète, s'est écrié, « Ô Dieu, où es-tu ? Et où est la tente qui couvre ta cachette ?» Beaucoup d'entre nous, dans les moments d'angoisse personnelle, ont l'impression que Dieu est loin d'eux. Mais la tente qui semble dissimuler l'aide divine ne couvre pas Dieu. Elle nous recouvre, nous, de temps à autre. Dieu n'est jamais caché, mais parfois c'est nous qui le sommes, recouverts d'une tente de motivation qui nous éloigne de Dieu et nous donne l'impression qu'il est éloigné et inaccessible. Ce sont les désirs personnels que nous avons au lieu de l'attitude de dire « que ta volonté soit faite » qui conduisent à l'impression qu'une tente cache Dieu. Dieu n'est pas incapable de nous voir ou de communiquer avec nous, mais il se peut que nous ne soyons pas disposés à écouter ou à nous soumettre à sa volonté et à son calendrier. L'impression d'être séparé de Dieu diminue lorsque nous devenons davantage comme des enfants devant lui. Ce n'est pas facile dans un monde où l'opinion des autres êtres humains peut énormément influer sur nos motivations. Mais cela nous aidera à reconnaître la vérité. Dieu est proche de nous, fait attention à nous et ne se cache jamais de ses enfants. Ma petite fille de 3 ans, Elisa, a illustré le pouvoir de l'innocence et de l'humilité pour nous mettre en relation avec Dieu. Elle s'est rendue avec sa famille aux visites guidées du temple de Brigham City en Utah. Dans l'une des salles du temple, elle a regardé autour d'elle et a demandé « Maman, où est Jésus ?» Sa mère a expliqué qu'elle ne verrait pas Jésus dans le temple, mais qu'elle pourrait ressentir son influence dans son cœur. Elisa a soigneusement réfléchi à la réponse de sa mère, puis elle a semblé satisfaite. « Ah, Jésus est parti aider quelqu'un », a-t-elle conclu. Aucune tente n'obscurcissait la compréhension d'Elisa ou sa vision de la réalité. Dieu est proche d'elle et elle se sent proche de lui. Elle savait que le temple est la maison du Seigneur, mais elle comprenait aussi que Jésus-Christ ressuscité et glorifié a un corps et ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Elle comprenait que s'il n'était pas dans sa maison, il devait être ailleurs. Selon sa connaissance du Sauveur, elle savait qu'il devait être quelque part en train de faire du bien aux enfants de son Père. Il était clair qu'elle espérait voir Jésus, non pas pour qu'il y ait un miracle confirmant son existence, mais simplement parce qu'elle l'aime. L'Esprit pouvait dévoiler à son esprit et à son cœur d'enfant le réconfort que nous voulons tous et dont nous avons tous besoin. Jésus-Christ vit, nous connaît, veille sur nous et prend soin de nous. Dans les moments de douleur, de solitude ou de confusion, nous n'avons pas besoin de voir Jésus-Christ pour savoir qu'il est au courant de notre situation et que sa mission est de faire du bien. Ma vie personnelle m'a appris que l'expérience d'Elisa peut être la nôtre longtemps après notre enfance. Au début de ma carrière, j'ai travaillé dur pour obtenir un poste de professeur titulaire à l'université de Stanford. J'estimais que j'avais fait en sorte d'avoir une vie agréable pour moi et pour ma famille. Nous vivions à proximité des parents de ma femme dans un cadre très confortable. Selon les critères du monde, j'avais brillamment réussi. Mais on m'a donné l'occasion de quitter la Californie et d'aller au Ricks College de Rexburg en Idaho. Les objectifs professionnels de ma vie auraient pu être une tente me séparant d'un père aimant qui savait mieux que moi ce que l'avenir me réservait. Mais j'ai eu la bénédiction de savoir que toute la réussite que j'avais eue jusqu'alors dans ma carrière et ma vie de famille était un don de Dieu. Alors, comme un enfant, je me suis agenouillé pour prier et demander ce que je devais faire. J'ai pu entendre dans mon esprit une voix discrète me dire « C'est mon école ». Il n'y avait pas de tente qui me cachait de Dieu. Avec foi et humilité, j'ai soumis ma volonté à la sienne et j'ai senti qu'il veillait sur moi et qu'il était proche. Les années que j'ai passées à Ricks College, pendant lesquelles j'ai recherché la volonté de Dieu et y ai obéi, ont empêché la tente de me recouvrir ou d'assombrir le rôle actif de Dieu dans ma vie. Dans mes efforts pour faire son œuvre, je me sentais proche de lui et j'avais l'assurance qu'il connaissait ma situation et se souciait profondément de mon bonheur. Mais comme à Stanford, les motivations du monde ont commencé à se présenter. L'une d'elles était une offre d'emploi attrayante qui m'a été faite juste au moment où je terminais ma 5e année en tant que président de Ricks College. J'ai réfléchi et prié à ce sujet et en ai même parlé avec les membres de la première présidence. Ils ont répondu chaleureusement et avec un peu d'humour, mais certainement pas par une directive ferme. Le président Kimball m'a écouté décrire l'offre que j'avais reçue d'une grande entreprise et a dit « Eh bien, Al, cela a l'air d'être une occasion magnifique. Et si nous avions besoin de toi, nous saurions où te trouver. » Ils auraient su où me trouver. Mais mon désir de réussite professionnelle aurait pu créer une tente qui aurait rendu plus difficile pour moi de trouver Dieu et d'écouter et de suivre ses invitations. Ma femme, ayant ressenti cela, a eu la forte impression que nous ne devions pas quitter Rice College. Mais elle a eu la sagesse d'insister pour que je recherche ma propre révélation. Alors j'ai à nouveau prié. Cette fois, j'ai reçu une directive sous la forme d'une voix dans mon esprit qui disait « Je te permets de rester au Rick's College un peu plus longtemps. » Mes ambitions personnelles auraient pu obscurcir ma vision de la réalité et faire qu'il me soit difficile de recevoir la révélation. 30 jours après que j'ai pris la décision inspirée de refuser l'offre d'emploi et de rester à Rick's College, le barrage sur la rivière Téton s'est rompu. Dieu savait que ce barrage allait se rompre et que des centaines de personnes allaient avoir besoin d'aide. Il m'a laissé chercher ses directives et obtenir sa permission de rester à Rick's College. Lui seul connaissait toutes les raisons pour lesquelles mon service pourrait encore être précieux à l'université à Rexburg. J'étais là pour invoquer fréquemment mon Père Céleste pour savoir ce qu'il voulait que je fasse pour les personnes dont les maisons et commerces avaient été endommagés ou détruits. J'ai passé des heures à travailler avec d'autres personnes pour déblayer la boue et évacuer l'eau des maisons. Mon désir de connaître et de faire sa volonté m'a donné l'occasion de progresser spirituellement. Cet incident illustre une autre façon que nous avons de mettre un obstacle qui nous empêche de connaître la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas insister sur notre calendrier quand le Seigneur a le sien. Je pensais que j'avais passé assez de temps à servir à Rexburg et j'étais pressé de passer à l'étape suivante. Parfois, notre insistance à agir en fonction de notre propre calendrier peut masquer sa volonté nous concernant. Dans la prison de Liberty, le prophète Joseph a demandé au Seigneur de punir les personnes qui persécutaient les membres de l'église au Missouri. Dans sa prière, il voulait un châtiment ferme et rapide. Mais le Seigneur a répondu que dans peu d'années, il allait s'occuper des ennemis de l'église. Au 24e verset de la section 121, il dit « Voici, mes yeux voient et connaissent toutes leurs œuvres, et j'ai en réserve un jugement rapide en son temps pour eux tous, car un temps est désigné pour chaque homme selon ce que seront ses œuvres. Nous enlevons la tente lorsque nous disons sincèrement en prière « Que ta volonté soit faite et en ton temps. » Son temps doit être suffisamment tôt pour nous puisque nous savons qu'il ne veut que ce qu'il y a de mieux. Une de mes belles-filles a eu l'impression pendant de nombreuses années que Dieu avait mis une tente sur elle. C'était une jeune mère de 3 enfants qui aspirait à en avoir d'autres. Après 2 fausses couches, ses supplications sont devenues angoissées. D'autres années d'infertilité passant, elle a été tentée par la colère. Quand son plus jeune enfant est allé à l'école, le vide de sa maison semblait se moquer de son désir de maternité. Les grossesses non planifiées ou même non voulues de ses connaissances lui faisaient le même effet. Elle se sentait aussi engagée et consacrée que Marie qui disait « Je suis la servante du Seigneur ». Mais elle avait beau dire ces paroles en son cœur, elle ne pouvait pas entendre de réponse. Espérant lui remonter le moral, son mari l'a invitée à l'accompagner à un voyage d'affaires en Californie. Pendant qu'il assistait à ses réunions, elle marchait le long d'une plage magnifique et déserte. Le cœur prêt à éclater, elle s'est mise à prier à haute voix. Pour la première fois, elle ne demandait pas d'avoir un autre enfant, mais d'accomplir quelque chose pour le Seigneur. Elle s'est écriée, « Père Céleste, je te donnerai tout mon temps. S'il te plaît, montre-moi comment l'occuper. » Elle s'est dit prête à emmener sa famille là où on le leur demanderait. Cette prière a produit un sentiment inattendu de paix. Cela n'a pas satisfait sa soif de certitude, mais pour la première fois depuis des années, Cela a apaisé son cœur. La prière a enlevé l'attente et a ouvert les écluses des cieux. Moins de 2 semaines plus tard, elle apprenait qu'elle attendait un enfant. Le bébé n'avait qu'un an quand mon fils et ma belle-fille ont été appelés en mission. Ayant promis qu'elle ferait n'importe quoi et irait n'importe où, elle a repoussé les sentiments de peur et est partie à l'étranger avec ses enfants. Dans le champ de la mission, elle a eu un autre enfant un jour de mutation des missionnaires. Il est indispensable de se soumettre complètement à la volonté des cieux comme l'a fait cette jeune mère pour enlever les tentes spirituelles que nous dressons parfois au-dessus de notre tête. Mais cela ne garantit pas une réponse immédiate à nos prières. Le cœur d'Abraham semble avoir été juste longtemps avant que Sarah mette au monde Isaac et avant qu'ils reçoivent leur terre promise. Les cieux avaient d'autres desseins à accomplir d'abord. Ces desseins consistaient non seulement à édifier la foi d'Abraham et de Sarah, mais aussi à leur enseigner des vérités éternelles qu'ils ont proclamées aux autres sur la longue route tortueuse préparée pour eux. Les délais du Seigneur semblent souvent longs. Certains durent toute la vie. Mais ils sont toujours calculés pour faire du bien. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient des moments, des périodes de solitude, de chagrin ou d'impatience. Bien que son calendrier ne soit pas toujours le nôtre, nous pouvons être sûrs que le Seigneur tient ses promesses. Pour tous ceux d'entre vous qui pensent maintenant qu'il est difficile d'atteindre Dieu, je témoigne que le jour viendra où nous le verrons tous face à face. Tout comme il n'y a rien maintenant qui obscurcisse sa vision de nous, de même, il n'y aura rien qui obscurcira notre vision de lui. Nous nous tiendrons tous en personne devant lui. Comme ma petite fille, nous voulons voir Jésus-Christ maintenant, mais nos retrouvailles avec lui à la barre du jugement seront plus agréables si nous faisons premièrement les choses qui nous le rendent aussi familier que nous le sommes pour lui. En le servant, nous devenons comme lui et nous nous sentons plus proches de lui, tandis que nous nous rapprochons du jour où rien ne nous cachera à sa vue. Ce mouvement en direction de Dieu peut être continuel. Le Seigneur enseigne « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Puis il nous dit comment « Car j'ai eu faim. » Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et avons-nous recueilli ou nu? Et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quand nous accomplissons ce qu'il veut que nous fassions pour les enfants de son Père, ce que le Seigneur considère comme des actes de gentillesse envers lui, nous nous sentons plus proches de lui, car nous ressentons son amour et son approbation. Un jour nous serons comme lui et attendrons le jour du jugement avec joie. L'attente qui semble vous cacher du Seigneur peut être la peur de l'homme au lieu de ce désir de servir votre prochain. La seule motivation du Sauveur était d'aider les gens. Beaucoup d'entre vous, comme moi, ont ressenti de la crainte en abordant quelqu'un qu'ils ont offensé ou qui les a blessés. Et pourtant, maintes fois, j'ai vu le Seigneur adoucir les cœurs, y compris le mien. Alors je vous invite à aller vers quelqu'un pour le Seigneur, malgré toute la peur que vous pouvez avoir, pour apporter l'amour et le pardon. Je vous promets qu'en faisant cela, vous sentirez l'amour du Sauveur pour cette personne venir sur vous, ainsi que l'amour de Dieu pour vous. Et vous n'aurez pas l'impression que cela vient de bien loin. La tâche pour vous peut se situer dans une famille, dans une collectivité ou dans tout un pays. Mais si vous le faites pour le Seigneur, afin de bénir les autres, il le verra et vous récompensera. Si vous faites cela souvent et suffisamment longtemps, vous ressentirez un changement dans votre nature même grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Vous ne vous sentirez pas seulement plus proche de lui, mais vous sentirez aussi de plus en plus que vous devenez comme lui. Alors quand vous le verrez, comme ce sera le cas pour nous tous, vous vivrez la même chose que Moroni quand il a dit « Et maintenant je vous dis à tous adieu. Je vais bientôt me reposer dans le paradis de Dieu, jusqu'à ce que mon esprit et mon corps se réunissent de nouveau et que je sois amené triomphant dans les airs pour vous rencontrer devant la barre agréable du grand Jéhovah, le juge éternel des vivants et des morts. Amen. Je témoigne que si nous savons avec foi, humilité et le désir de faire la volonté de Dieu, la barre du jugement du grand Jéhovah sera agréable. Nous verrons notre Père aimant et son Fils comme il nous voit maintenant, avec une clarté parfaite et un amour parfait. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Mon message s'adresse à tous ceux d'entre vous qui souffrent, qui se sentent coupables, qui ont de la faiblesse et des tristesses, et qui sont dans le désespoir. En 1971, on m'a confié la responsabilité de plusieurs conférences de pieux aux îles Samoa occidentales, ainsi que l'organisation d'un nouveau pieu sur l'île d'Upolu. À la suite des entretiens, nous avons affrété un petit avion pour nous rendre à une conférence de pieux sur l'île de Savaï. L'avion atterrit dans un champ à Fala et devait revenir le lendemain après-midi pour nous ramener sur l'île d'Upolu. Le jour où nous devions quitter Savaï, il pleuvait. Sachant que l'avion ne pouvait pas atterrir dans un champ détrempé, nous nous sommes rendus en voiture à l'extrémité ouest de l'île, où il y avait une sorte de piste sur une barrière de corail. Nous avons attendu jusqu'à la nuit, mais aucun avion n'est arrivé. Nous avons finalement appris par radio qu'il y avait une tempête et que l'avion ne pouvait pas décoller. Nous avons répondu toujours par radio que nous viendrions en bateau. Quelqu'un nous attendrait à Mulifanua. Au moment où nous sortions du port de Savaï, le capitaine du bateau de 12 mètres a demandé au président de mission s'il avait une lampe de poche. Heureusement, il en avait une et l'a offerte au capitaine. Nous avons fait la traversée de 24 kilomètres jusqu'à l'île d'Upolu sur une mer très agitée. Nous ne doutions pas qu'une violente tempête tropicale avait frappé l'île et que nous nous dirigeons droit sur elle. Pour atteindre le port de Mulifanua, il fallait prendre un passage étroit le long du récif. Cet étroit passage était signalé par une lumière sur la colline, surplombant la plage, et par une seconde lumière plus bas. Lorsqu'un bateau était positionné de façon à ce que les deux lumières soient l'une au-dessus de l'autre, il était au bon endroit pour traverser en évitant les dangereux rochers bordant le passage. Mais cette nuit-là, il n'y avait qu'une seule lumière. Deux missionnaires nous attendaient sur le ponton de débarquement, mais la traversée avait pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Après avoir passé des heures à scruter l'arrivée de notre bateau, les missionnaires, fatigués, s'étaient endormis, oubliant d'allumer la seconde lumière, la lumière du bas. Par conséquent, le passage à travers le récif n'était pas bien visible. Le capitaine a dirigé de son mieux le bateau en direction de la lumière la plus haute de la rive. Pendant que, de la proue, un homme d'équipage tentait d'apercevoir les rochers à la lumière de la lampe de poche empruntée. Nous entendions les vagues s'écraser sur le récif. Quand nous étions assez proches pour les voir avec la lampe de poche, le capitaine criait frénétiquement d'inverser le moteur et reculait pour essayer à nouveau de localiser le passage. Après plusieurs tentatives, il a compris qu'il serait impossible de trouver le passage. Tout ce que nous pouvions faire, c'était d'essayer d'atteindre le port d'Apia, à 64 kilomètres de là. Nous étions impuissants devant la force des éléments déchaînés. Je ne me rappelle pas m'être jamais trouvé dans une telle obscurité. Pendant la première heure, nous n'avancions pas, alors que le moteur tournait à plein régime. Le bateau atteignait difficilement le sommet d'une énorme vague, puis, épuisé, s'arrêtait, les hélices momentanément hors de l'eau. La vibration des hélices secouait tellement le bateau que nous avions l'impression qu'il allait être mis en pièces avant de glisser de l'autre côté de la vague. Nous étions allongés sur la trappe de la cale, bras et jambes écartés, nous cramponnant d'un côté avec les mains, les pieds bloqués de l'autre, pour éviter d'être jetés par-dessus bord. Frère Littleford, ayant lâché prise, a été projeté contre la rambarde inférieure. Il s'est fait une coupure à la tête, mais la rambarde l'a empêché d'être éjecté. Finalement, nous avons avancé, et au lever du jour, nous avons accosté au port d'Apia. Par sécurité, les bateaux avaient été attachés les uns aux autres. À l'embarcadère, il y en avait sur plusieurs rangées. Nous nous sommes faufilés, essayant de ne pas réveiller les gens qui dormaient sur les ponts. Nous sommes arrivés à Pessega, avons séché nos vêtements et sommes repartis pour Vailutai pour organiser le nouveau pieu. Je ne sais pas qui nous attendait à Mulifanua. Je n'ai pas voulu le savoir. Mais il est vrai que, privés de cette lumière plus bas, nous aurions pu tous disparaître. Dans notre recueil d'hymnes, il y a un très vieux cantique que l'on chante rarement, qui pour moi a une signification très spéciale. Brillamment, l'amour du Père, comme un phare, éclaire tout. Quant à nous, par nos lumières, nous guidons autour de nous. Que nos lampes brûlent claires, indiquant sur le flot noir, aux marins perdus qu'hier, le chemin, la vie, l'espoir. Le péché dans la nuit sombre se déchaîne menaçant, et des yeux inquiets dans l'ombre vont chercher nos feux brillants. Fais rayonner ta lumière pour arracher à la mort le pauvre marin qu'hier, à la recherche du port. Je m'adresse aujourd'hui à ceux qui, peut-être, sont perdus et qui cherchent cette lumière du bas pour les guider sur le chemin du retour. Dès le début, il était clair que dans la condition mortelle, nous ne réussirions pas à devenir parfaits. Il n'était pas attendu de nous que nous vivions sans transgresser une loi ou une autre. Car l'homme naturel est ennemi de Dieu et l'est depuis la chute d'Adam. Et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur. D'après la perle de Grand Prix, nous savons que rien d'impur ne peut demeurer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi un moyen de se repentir et d'être de nouveau digne de se trouver en présence de notre Père Céleste a été prévu pour tous ceux qui pêchent. Un médiateur, un rédempteur, a été choisi, quelqu'un qui avait une vie parfaite, ne commettrait aucun péché, s'offrirait en sacrifice pour le péché, pour satisfaire aux exigences de la loi, pour tous ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit contrit. Et il ne peut être satisfait aux exigences de la loi pour personne d'autre. Dans Alma, au sujet de l'importance de l'expiation, nous apprenons ceci. Car il est nécessaire qu'une expiation soit accomplie, sinon toute l'humanité va périr. Si vous avez commis une faute, si vous n'avez commis aucune faute, alors vous n'avez pas besoin de l'expiation. Si vous avez commis des fautes, alors, et nous l'avons tous fait, qu'elles soient bénignes ou graves, alors vous avez un immense besoin de trouver comment elles peuvent être effacées afin que vous ne soyez plus dans les ténèbres. Jésus-Christ est la lumière et la vie du monde. Si nous fixons fermement notre regard sur lui et sur ses enseignements, nous serons guidés vers le port du salut spirituel. Le troisième article de foi dit, nous croyons que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Joseph F. Smith a déclaré, les hommes ne peuvent pas se pardonner leurs propres péchés. Ils ne peuvent pas se purifier eux-mêmes des conséquences de leurs péchés. Les hommes peuvent arrêter de pécher et faire le bien par la suite, et dans la mesure où leurs actes sont acceptables devant Dieu, devenir dignes de considération. Mais qui réparera les torts causés par eux-mêmes et aux autres? Torts qui leur semblent impossibles de réparer personnellement. Par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, les péchés de ceux qui se repentent seront effacés. Même s'ils sont comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme la neige. C'est la promesse qui vous est faite. Nous ne savons pas exactement comment le Seigneur a accompli l'expiation. Mais nous savons que la torture cruelle de la crucifixion n'était qu'une partie de la terrifiante douleur qui commença à Gethsémané, ce lieu de souffrance sacrée, et s'acheva à Golgotha. Luc a écrit, « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. À ma connaissance, il n'existe qu'un seul récit comportant les termes du Sauveur lui-même pour décrire les douleurs qu'il a endurées dans le jardin de Gethsémané. La révélation dit, « Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore. Pendant votre vie, il vous est peut-être arrivé d'aller là où vous n'auriez jamais dû aller, et de faire des choses que vous n'auriez jamais dû faire. Mais si vous vous détournez du péché, vous pourrez un jour connaître la paix qu'on reçoit en suivant le chemin du repentir jusqu'au bout. Quelles que soient nos transgressions passées, quel que soit le mal que nos actes ont pu causer à d'autres, notre culpabilité peut être balayée. À mon avis, la plus belle expression des Écritures est peut-être cette déclaration du Seigneur. Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Tel est le but de l'Évangile de Jésus-Christ et de l'expiation. Accueillir tous ceux qui viennent, tous ceux qui veulent se joindre à nous, et leur faire vivre des expériences qui, à la fin de leur vie, leur permettront de franchir le voile, s'étant repentis de leurs péchés et ayant été lavés par le sang du Christ. C'est ce que les saints des derniers jours font à travers le monde. C'est la lumière que nous offrons à ceux qui sont dans les ténèbres et qui se sont égarés. Où que nos membres et nos missionnaires aillent, notre message est un message de foi et d'espérance dans le Sauveur Jésus-Christ. Joseph Fielding Smith a écrit les paroles du cantique « Le chemin est-il long ?» Ces paroles contiennent un encouragement et une promesse pour ceux qui cherchent à suivre les enseignements du Sauveur. Le chemin est-il long, escarpé, épuisant? de chardons et d'épines remplis? Les cailloux du sentier sont-ils aigus, coupants? Avez-vous donc besoin d'un appui? Votre cœur est-il là, triste et découragé, en portant votre part de soucis? Vos fardeaux ici-bas sont-ils lourds à porter? Pour aider, n'avez-vous point d'amis? Oh, ne faiblissez pas en montant le chemin, car l'aimé vous attend tout là-haut. Portez vers lui vos pas et saisissez sa main. Il vous conduira toujours plus haut, au pays saint et pur, où tout cesse la douleur, d'où le sombre péché s'est enfui, où le ciel est d'azur et bannit le malheur. Suivez-le donc, entrez avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Does the journey seem long? The path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the day? Is your heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no and with him enter.
Une des meilleures preuves que Thomas Monson, notre prophète bien-aimé, est le serviteur choisi du Seigneur et qu'il a appris à suivre l'exemple du Sauveur en servant chacun individuellement, un par un. Nous qui sommes entrés dans les eaux du baptême, nous avons fait alliance de faire de même. Nous avons fait alliance de toujours nous souvenir du Sauveur et de garder ses commandements. Et il a dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Vous remarquerez que les paroles du président Monson qui suivent contiennent la même invitation. Nous sommes entourés de gens qui ont besoin de notre attention, de nos encouragements, de notre soutien, de notre réconfort, de notre gentillesse. Nous sommes les mains du Seigneur ici sur terre, avec la mission de servir et d'aider ses enfants. Il dépend de chacun de nous. Vous avez entendu l'invitation à nous aimer les uns les autres? Pour certains, servir ou s'occuper des autres un par un, en suivant l'exemple du Sauveur, n'est pas chose aisée. Mais avec de la pratique, chacun de nous peut devenir davantage semblable au Sauveur en servant les enfants de Dieu. Afin de vous aider à mieux nous aimer les uns les autres, je vais suggérer 4 mots à nous rappeler. D'abord, observer. Ensuite, servir. Il y a près de 40 ans, mon mari et moi sommes allés au temple pour notre sortie du vendredi soir. Nous étions mariés depuis peu et j'étais nerveuse parce que c'était seulement la 2e fois que je m'y rendais en tant que jeune mariée. Une sœur assise à côté de moi a dû s'en apercevoir. Elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré révérencieusement « Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai ». Mes craintes se sont apaisées et j'ai pu savourer le reste de la session du temple. Elle a d'abord observé, ensuite elle a servi. Nous sommes tous invités à suivre les enseignements de Jésus et à servir les autres. Cette invitation n'est pas limitée à des sœurs angéliques. À travers ces quelques exemples de membres qui ont appris à observer et ensuite à servir, recherchez les enseignements de Jésus qu'ils illustrent. Un enfant de la primaire de 6 ans dit « Quand j'ai été choisi pour être l'assistant de la classe, je pouvais choisir un ami pour m'aider. J'ai choisi un garçon de ma classe qui me harcelait, parce que personne ne le choisissait jamais. Je voulais lui faire plaisir. » Qu'a observé cet enfant? Il a remarqué que le caïd de la classe n'était jamais choisi. Qu'a-t-il fait pour servir? Il l'a tout simplement choisi pour être l'ami qui l'aiderait. Jésus enseigne, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Dans une paroisse, les détenteurs de la prêtrise d'Aaron ont d'abord observé et servent maintenant d'une manière efficace. Chaque semaine, les jeunes gens viennent en avance et se tiennent devant l'église par tous les temps pour attendre l'arrivée des nombreux membres âgés de leur paroisse. Ils sortent des fauteuils roulants et des déambulateurs des voitures. Ils offrent des bras solides auxquels s'accrocher et escortent patiemment les aînés aux cheveux blancs à l'intérieur. Ils accomplissent véritablement leur devoir envers Dieu. En observant et en servant ensuite, ils sont des exemples vivants de l'enseignement du Sauveur. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Avec le lancement du nouveau programme d'études pour les jeunes, les yeux de ces jeunes gens seront indubitablement ouverts à encore plus d'occasions de servir à la manière du Christ. Observer et servir demande parfois un grand effort. Une jeune fille inspirée, prénommée Alexandria, avait remarqué que sa cousine Madison était incapable de remplir les conditions requises pour accomplir son progrès personnel parce qu'elle souffrait d'autisme sévère. Alexandria a mobilisé les jeunes filles de sa paroisse, pris conseil auprès de ses dirigeantes et décidé de faire pour Maddy quelque chose qu'elle ne pourrait pas faire elle-même. Chaque jeune fille a réalisé, à la place de Maddy, une partie des activités des projets du progrès personnel afin de lui permettre de recevoir son médaillon. Ces jeunes filles ont bien évolué vers leur rôle de mère et de sœur de la société de secours parce qu'elles apprennent à observer et servir avec charité. Le président Monson nous a rappelé que la charité, l'amour pur du Christ, ou en d'autres termes observer et servir, se voit lorsqu'on se souvient d'une veuve âgée et qu'on l'emmène aux réunions de la paroisse et aux activités de la société de secours, et quand une sœur assise seule à la société de secours reçoit l'invitation, « Viens t'asseoir avec nous ». La règle d'or s'applique ici. Tout ce que vous voulez que les hommes ou les femmes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Un mari attentif a rendu service de 2 manières importantes. Il raconte, « Un dimanche, j'aidais ma femme avec sa classe de primaire remplie d'enfants de 7 ans pleins de vie. Alors que la période d'échange commençait, j'ai remarqué qu'une des élèves était recroquevillée sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. L'esprit m'a soufflé qu'elle avait besoin de réconfort. Je me suis donc assis à côté d'elle et lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle n'a pas répondu. Alors je me suis mise à chanter à mi-voix pour elle. La primaire apprenait un nouveau chant et quand nous avons chanté « Si j'écoute avec mon cœur, Jésus parle, je sais », une lumière et une douceur prodigieuses ont commencé à remplir mon âme. J'ai reçu le témoignage personnel de l'amour de notre Sauveur pour elle et pour moi. J'ai appris que nous sommes les mains du Sauveur quand nous servons notre prochain. Non seulement ce frère charitable a remarqué que sa femme avait besoin d'aide avec sa classe remplie d'enfants de 7 ans pleins de vie, mais il a aussi rendu service à une enfant qui en avait besoin. Il a suivi le Seigneur qui a enseigné, car les œuvres que vous m'avez vues faire, vous les ferez aussi. Récemment, une inondation a donné aux disciples de Jésus-Christ de nombreuses occasions d'observer d'abord et ensuite servir. Des hommes, des femmes, des adolescents et des enfants ont vu des maisons et des magasins détruits et ils ont tout laissé pour aider au nettoyage et à la réparation des dégâts. Certains ont remarqué qu'il y avait énormément de lessive à faire. D'autres ont soigneusement essuyé les photos, des documents juridiques, des lettres et d'autres papiers importants, puis les ont délicatement mis à sécher pour préserver ce qui pouvait l'être. Observer et ensuite servir n'arrive pas toujours au bon moment et ne s'accorde pas toujours avec notre emploi du temps. Quel meilleur endroit pour d'abord observer et ensuite servir que notre foyer? Un exemple tiré de la vie de Richard G. Scott illustre cela. Une nuit, Richard, notre petit garçon, qui avait un problème au cœur, s'est réveillé en pleurant. D'habitude, ma femme se levait toujours pour s'occuper du bébé quand il pleurait, mais cette fois, j'ai dit « je m'occupe de lui ». À cause de son problème, son petit cœur battait très vite et très fort quand il commençait à pleurer. Il vomissait et salissait les draps. Cette nuit-là, je l'ai pris tout contre moi et j'ai essayé de calmer son cœur et de le faire cesser de pleurer pendant que je changeais ses vêtements et ses draps. Je l'ai tenu jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je ne savais pas alors que quelques mois plus tard seulement, il allait décéder. Je me souviendrai toujours de l'avoir tenu dans mes bras au milieu de la nuit. Jésus a dit, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Parfois, nous sommes tentés de servir à notre manière et pas forcément à la manière requise par la situation. Quand il a enseigné le principe de la prévoyance, Robert Diels a donné comme exemple ce qui lui est arrivé quand il a acheté un cadeau pour sa femme. Elle a demandé « Achètes-tu cela pour moi ou pour toi ?» Si nous transposons cette question à nous-mêmes dans notre service en nous demandant « Fais-je cela pour le Sauveur ou fais-je cela pour moi ?» il y aura plus de chances pour que notre service ressemble davantage au ministère du Sauveur. Le Sauveur a demandé et nous devrions faire de même. Que voulez-vous que je vous fasse ? Il y a quelques semaines, j'étais pressée et éreintée et j'avais une liste de choses à faire qui n'en finissait pas. J'avais espéré me rendre au temple ce jour-là et je pensais être vraiment trop occupée. Dès que cette pensée m'a traversé l'esprit, cela m'a fait prendre conscience de ce que j'avais besoin le plus de faire. J'ai quitté mon bureau pour aller jusqu'au temple de Salt Lake City en me demandant quand j'allais bien pouvoir attraper le temps que j'étais en train de perdre. Heureusement, le Seigneur est patient et miséricordieux et il m'a donné une belle leçon ce jour-là. Comme je m'asseyais dans la salle de session, une jeune sœur s'est penchée vers moi et m'a chuchoté révérencieusement. « Je suis vraiment anxieuse. C'est seulement la deuxième fois que je viens au temple. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» Comment aurait-elle pu savoir que ces mots étaient précisément ceux que j'avais besoin d'entendre ? Elle ne le savait pas, mais notre Père Céleste lui le savait. Il avait observé mon plus grand besoin. J'avais besoin de servir. Il a incité cette humble jeune sœur à me servir en m'invitant à la servir. Je peux vous assurer que c'est moi qui en ai le plus bénéficié. Je suis profondément reconnaissante des nombreuses personnes charitables qui ont servi notre famille au fil des ans. Je remercie du fond du cœur mon mari et ma famille bien-aimée qui œuvrent avec abnégation et beaucoup d'amour. Puissions-nous tous chercher d'abord à observer puis à servir. Si nous le faisons, nous respectons nos alliances et notre service, comme celui du président Monson, sera la preuve de notre qualité de disciple. Je sais que le Sauveur vit. Son expiation nous permet de mettre en pratique ses enseignements. Je sais que le président Monson est notre prophète actuel. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren.
Merci, sœurs. Merci, les frères. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Appelés à servir ». Ensuite, nous entendrons Walter F. Gonzalez de la présidence des 70. Il sera suivi de Jeffrey Roland du Collège des 12 apôtres. Le chœur chantera ensuite « If the Savior stood beside me ».
This is the 182nd semi-annual general.
Vous assistez à la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Venez à moi, afin de toucher et de voir. C'était un commandement du Sauveur aux habitants de l'Amérique ancienne. Ils touchèrent de leurs mains et virent de leurs yeux que Jésus était le Christ. Ce commandement est tout aussi important pour nous aujourd'hui qu'il était pour eux à leur époque. En allant au Christ, nous pouvons nous aussi ressentir et connaître avec certitude, non pas avec nos mains et nos yeux, mais de tout notre cœur et de tout notre esprit, que Jésus est le Christ. Une façon d'aller au Christ consiste à chercher à apprendre avec le cœur des vérités essentielles. Lorsque nous le ferons, des impressions venant de Dieu nous donneront une connaissance que nous ne pourrions obtenir autrement. L'apôtre Pierre savait avec certitude que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Sauveur expliqua que la source de la connaissance de Pierre n'était pas la chair et le sang, mais le Père qui est dans les cieux. Le prophète Abinadi expliqua le rôle des sentiments dans notre cœur qui viennent de Dieu. Il enseigna que nous ne pouvons pas comprendre les Écritures complètement sans appliquer notre cœur pour avoir l'intelligence. Cette vérité a été bien formulée dans le livre pour enfants « Le petit prince » de Saint-Exupéry. Dans l'histoire, le petit prince devient ami avec un renard. Au moment où ils se séparent, Le renard confie un secret au petit prince. Il dit, « Voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Thomas Coelho, un frère de 88 ans, est un bon exemple d'une personne qui a vu les choses essentielles avec son cœur. C'était un membre fidèle de notre grand conseil à Paysandú, en Uruguay. Avant de se joindre à l'église, il avait eu un accident de moto. Tandis qu'il était couché par terre, incapable de se relever, deux de nos missionnaires l'ont aidé à se relever et à rentrer chez lui. Il a dit qu'il avait ressenti quelque chose de spécial lorsque les missionnaires étaient venus à son secours. Plus tard, il a ressenti à nouveau quelque chose de fort lorsque les missionnaires lui ont enseigné l'Évangile. L'impact de ses sentiments était tel qu'il a lu les livres de Mormon d'un bout à l'autre, en quelques jours seulement. Il s'est fait baptiser, et à partir de ce jour-là, il a servi fidèlement et inlassablement. Je me rappelle qu'il sillonnait les rues de notre ville sur sa moto, même pendant les hivers froids et pluvieux, pour ramener les gens à l'église, afin qu'ils puissent voir, ressentir et savoir avec certitude, tout comme lui. Aujourd'hui, entouré de tant d'informations, nous pourrions penser que le fait de naviguer sur des millions de pages Internet nous donnera tout ce que nous avons besoin de savoir. Nous pouvons trouver de bonnes et de mauvaises informations sur l'Internet, mais l'information seule ne suffit pas. Dieu nous a donné une autre source de connaissances supérieures, la connaissance venant des cieux. Notre Père Céleste peut nous donner cette connaissance lorsque nous naviguons sur l'Internet céleste, dans notre cœur et notre esprit. Joseph Smith, le prophète, a déclaré qu'il avait le plus vieux livre dans le cœur, le don du Saint-Esprit. Nous accédons à cette source céleste lorsque nous lisons les Écritures, écoutons le prophète vivant et prions. Il est aussi important de prendre du temps pour être calme et pour ressentir les inspirations célestes. Lorsque nous le faisons, nous ressentons et voyons des choses qui ne peuvent s'apprendre au moyen de la technologie moderne. Une fois que nous aurons de l'expérience dans la navigation de l'Internet céleste, nous discernerons la vérité, même lorsque nous lirons des récits historiques, profanes ou sur d'autres sujets. Les personnes qui recherchent honnêtement la vérité connaîtront la vérité de toutes choses par le pouvoir du Saint-Esprit. À présent, une mise en garde. L'accès à cet Internet céleste est bloqué par l'iniquité et l'oubli du Seigneur. Néphi a dit à ses frères qu'ils ne pouvaient pas sentir ses paroles parce qu'ils étaient prompts à commettre l'iniquité et lents à se souvenir du Seigneur. L'iniquité entrave notre capacité de voir, de ressentir et d'aimer les autres. Lorsque nous sommes prompts à nous souvenir du Seigneur en priant de toute l'énergie de notre cœur et en nous rappelant nos expériences spirituelles, notre capacité de voir et de ressentir les choses du Christ augmente. Maintenant, je vous demande, vous souvenez-vous de la paix que vous avez ressentie lorsqu'après beaucoup de tribulations, vous avez imploré l'aide du Seigneur en une prière fervente? Vous souvenez-vous avoir déjà modifié votre liste de choses à faire pour suivre une inspiration dans votre cœur? Les grands hommes du Livre de Mormon ont favorisé l'accès à une connaissance supérieure en évoquant leurs expériences spirituelles importantes. Alma a par exemple fortifié ses enfants en leur rappelant l'histoire de sa conversion. Élaman a enseigné à Néphi et à Léhi qu'ils devaient se souvenir que c'est sur le roc du Christ qu'ils devaient bâtir leur fondation, afin que le diable n'ait aucun pouvoir sur eux. Nous devons faire de même. Le souvenir de Dieu nous aide à ressentir et à vivre. Cela donne un sens plus profond aux paroles du roi Benjamin qui dit « Et maintenant, ô homme, souviens-toi et ne péris pas. » L'un des souvenirs les plus sacrés que je chéris est le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai su que le livre de Mormon était la parole de Dieu. J'ai appris que nous pouvons ressentir une joie que les mots ne peuvent décrire. Ce jour-là, agenouillé, j'ai ressenti et su avec certitude des choses que je n'aurais pas pu apprendre autrement. Je serai à jamais reconnaissant de ce souvenir qui me fortifie dans les moments difficiles. Ceux qui reçoivent la connaissance, non par la chair et le sang, mais par notre Père Céleste, savent avec certitude que Jésus est le Christ et que c'est son Église. Cette connaissance même nous donne la force d'opérer les changements nécessaires pour aller au Christ. Pour cette raison, nous invitons chaque âme maintenant à se faire baptiser, à se repentir et à se tourner vers lui. En allant au Christ, chaque âme peut voir, sentir et savoir avec certitude que le Christ a souffert pendant le sacrifice expiatoire pour nos péchés, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Si nous nous repentons, nous ne souffrirons pas inutilement. Grâce à lui, les âmes blessées peuvent être guéries et les cœurs brisés peuvent être réparés. Il n'existe pas de fardeau qu'il ne puisse soulager ou supprimer. Il connaît nos infirmités et nos maladies. Je vous promets et vous témoigne que lorsque toutes les portes sembleront fermées, lorsque tout le reste semblera échouer, il ne vous abandonnera pas. Le Christ vous aidera. Il est la porte de sortie, que vous soyez aux prises avec une dépendance, une dépression, quoi que ce soit d'autre. Il sait comment secourir son peuple. Les mariages et les familles aux prises avec des difficultés, quelle qu'en soit la raison, difficultés économiques ou familiales ou mauvaise influence des médias, ressentiront une influence apaisante venant des cieux. Il est réconfortant de sentir et de voir que le Christ est ressuscité des morts avec la guérison sous ses ailes, que grâce à lui nous nous retrouverons et embrasserons à nouveau ceux de nos êtres chers qui sont décédés. Notre conversion au Christ est véritablement récompensée par notre guérison. Je sais avec certitude que tout cela est vrai. Pour cette raison, je joins ma voix à celle des premiers habitants de l'Amérique ancienne qui s'exclamèrent « Hosanna, béni soit le nom du Dieu Très-Haut. » Il nous donne le salut. Je rends témoignage que Jésus est le Christ, le Saint Messie. Il est le Seigneur des armées, notre Sauveur et Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
There is almost no group.
Aucun groupe de l'histoire de l'humanité n'attire davantage ma sympathie que les 11 apôtres restants immédiatement après la mort du Sauveur du monde. Je crains qu'on oublie à quel point ils étaient encore inexpérimentés et étaient totalement dépendants de Jésus, ce qui est normal. Il leur avait dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Mais bien sûr, à leur avis, il était loin d'avoir passé assez de temps auprès d'eux. 3 ans, c'est peu de temps pour appeler un collège complet de 12 apôtres, de parmi une poignée de convertis récents, les débarrasser de leurs coutumes erronées, leur enseigner les merveilles de l'Évangile de Jésus-Christ et les laisser poursuivre l'œuvre jusqu'à ce qu'eux aussi soient tués à leur tour. Quelle perspective déconcertante pour un groupe d'anciens nouvellement ordonnés. Surtout, le fait de rester seul. À maintes reprises, Jésus a essayé de leur dire qu'il n'allait pas rester physiquement présent à leur côté, mais soit qu'ils n'aient pas pu le comprendre, soit qu'ils ne l'aient pas voulu, cette idée leur était insupportable. Marc écrit, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Puis, après un laps de temps trop court pour apprendre et encore moins de temps pour se préparer, l'impensable a eu lieu. L'incroyable se produit. Leur Seigneur et Maître, leur conseiller et roi, est crucifié. Son ministère mortel est terminé et la petite église en difficulté qu'il a établie semble vouée au mépris et condamnée à disparaître. Ses apôtres ont bien été témoins de son état ressuscité, mais cela aussi n'a fait qu'ajouter à leur confusion, se demandant certainement « Que faut-il faire maintenant ?» Ils se sont alors tournés vers Pierre, le chef des apôtres. Je vous demande maintenant votre indulgence pour la liberté non scripturaire que je prends afin d'évoquer ce dialogue. Pierre a pu dire à ses collègues quelque chose comme « Frères, nous avons passé trois merveilleuses années. Aucun de nous n'aurait pu imaginer, ne serait-ce que quelques mois plus tôt, les miracles que nous avons vus et la présence divine dont nous avons bénéficié. Nous avons parlé, prié et travaillé avec le Fils même de Dieu. Nous avons marché avec lui, pleuré avec lui, et cette horrible dernière nuit, personne n'a pleuré plus amèrement que moi. Mais c'est terminé. Il a terminé son œuvre et est ressuscité. Il a opéré son salut et le nôtre. Alors, vous demandez, que faut-il faire maintenant? Je ne peux pas mieux vous dire que de retourner à votre ancienne vie et vous réjouir. J'ai l'intention d'aller pêcher. Et au moins 6 des 10 apôtres restants manifestent leur accord. Nous allons aussi avec toi. Jean, qui est l'un d'entre eux, écrit, ils sortirent et montèrent dans une barque. Mais hélas, la pêche n'est pas bonne. Leur première nuit de retour sur le lac, ils n'attrapent rien. Pas le moindre poisson. Dès les premières lueurs de l'aube, ils retournent déçus vers le rivage, où ils voient au loin une silhouette qui les interpelle. Enfants, n'avez-vous rien à manger? D'un air abattu, ces apôtres redevenus pêcheurs répondent ce qu'aucun pêcheur ne veut admettre. Non, marmonnent-ils. Et pour couronner le tout, on les traite d'enfants. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez, crie l'étranger. Et à ces simples mots, tout leur revient. 3 ans plus tôt, ces mêmes hommes pêchaient sur cette même mer. Cette fois-là, ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, dit l'Écriture. Mais un Galiléen sur la plage leur avait crié de jeter leur filet et ils avaient pris une grande quantité de poissons, suffisamment pour que leur filet se rompe. la prise remplissait deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Il revivait la même chose. Ses enfants, comme ils venaient très justement d'être appelés, jettent avec empressement leur filet et ne peuvent plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Jean déclare l'évidence. C'est le Seigneur. Et l'impétueux Pierre d'un bond est hors de la barque. Après les joyeuses retrouvailles avec Jésus ressuscité, Pierre a un entretien avec le Sauveur qui, selon moi, est le moment décisif du ministère apostolique en général et de celui de Pierre en particulier, car il oriente cet homme solide comme un roc vers une vie majestueuse de serviteur dévoué et de dirigeant sans égal. Regardant leur barque endommagée, leur filet effiloché et un monceau étonnant de 153 poissons, Jésus dit au chef des apôtres, Pierre, m'aimes-tu plus que tu n'aimes tout ceci? Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Sauveur en réponse, continuant à regarder son disciple dans les yeux, dit de nouveau, Pierre, m'aimes-tu? Certainement perplexe devant la répétition de la question, le grand pêcheur répond une seconde fois, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Sauveur répond brièvement à nouveau, mais avec une insistance implacable, une troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? Certainement que Pierre doit maintenant se sentir très mal à l'aise. Peut-être le souvenir demeure-t-il dans son cœur d'une autre question posée trois fois quelques jours plus tôt et à laquelle il a répondu aussi catégoriquement, mais négativement. Ou peut-être se demande-t-il s'il ne s'est pas mépris sur la question du maître pédagogue. Ou peut-être sonde-t-il son cœur à la recherche d'une confirmation honnête de la réponse qu'il a donnée si rapidement, presque machinalement. Quels que soient ses sentiments, Pierre dit pour la troisième fois, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ce à quoi Jésus répond, et là encore je reconnais que j'invente, peut-être quelque chose comme, alors Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu revenu sur ce même rivage, avec ces mêmes filets, tenir cette même conversation? N'as-tu pas vu alors, et ne vois-tu pas maintenant, que si je veux du poisson, je peux en avoir? Ce dont j'ai besoin, Pierre, ce sont des disciples, et j'ai besoin d'eux pour toujours. J'ai besoin de quelqu'un qui nourrisse mes brebis et sauve mes agneaux. J'ai besoin de quelqu'un qui prêche mon évangile et défende ma foi. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime vraiment et aime la tâche que notre Père, qui est dans les cieux, m'a confiée. Notre message n'est pas sans conviction. Notre tâche n'est pas éphémère. Elle n'est ni frappée du sort, ni désespérée, ni vouée au rebut de l'histoire. Elle est l'œuvre du Tout-Puissant et elle va changer le monde. Alors, pour la deuxième fois, et probablement la dernière, Pierre, je te demande de laisser tout cela et d'aller enseigner, témoigner, servir, sacrifier, aimer, travailler loyalement jusqu'au jour où ils te feront exactement ce qu'ils m'ont fait. Ensuite, se tournant vers tous les apôtres, il pourrait bien leur avoir dit, êtes-vous aussi inconscient que les scribes et les pharisiens, qu'Hérode et Pilate? Est-ce que vous avez aussi pensé comme eux qu'on pouvait faire avorter cette œuvre simplement en me tuant? Est-ce que vous avez aussi pensé comme eux que la croix, les clous et la tombe étaient la fin de tout et que chacun pouvait retourner allègrement à ce qu'il faisait avant? Enfant, est-ce que ma vie et mon amour n'ont pas touché votre cœur plus profondément que cela? Frères et sœurs, certains d'entre nous demandent inlassablement à Dieu, m'aimes-tu? C'est manifestement la mauvaise question à laquelle il a inlassablement répondu.
I think he will want to know if in our very mortal, very inadequate,
que ce soit par les Écritures, par la vie, par le don de son Fils unique et des manières qui, comme son monde, sont littéralement son ombre, avons-nous gardé le plus grand commandement de tous? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et si à cet instant, nous pouvons bégayer, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime », alors il se pourrait qu'il nous rappelle que la caractéristique suprême de l'amour est toujours la loyauté. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors nous avons des voisins à bénir, des enfants à protéger, des pauvres à soutenir et la vérité à défendre. Nous avons des torts à réparer, des vérités à proclamer et du bien à faire. Bref, nous avons une vie de disciples dévoués à consacrer pour montrer notre amour du Seigneur. Nous ne pouvons pas abandonner, nous ne pouvons pas faire marche arrière. Après une rencontre avec le Fils vivant du Dieu vivant, rien n'est plus jamais comme avant. La crucifixion, l'expiation et la résurrection de Jésus marquent le début d'une vie de chrétien, pas la fin. C'est cette vérité, cette réalité, qui a permis à une poignée de pécheurs, galiléens, redevenus apôtres, de partir, sans une seule synagogue, ni une seule épée, laissant leur filet une deuxième fois pour forger l'histoire du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mon témoignage à tous, avec tout mon cœur, à tous ceux qui peuvent entendre que ces clés apostoliques ont été rétablies sur la terre et se trouvent dans l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. À ceux qui ne sont pas encore ralliés avec nous, à la grande et ultime cause du Christ, nous disons, s'il vous plaît, venez. À ceux qui étaient jadis avec nous, mais ont battu en retraite, préférant sélectionner quelques hors-d'œuvre culturels, exotiques, du buffet du rétablissement, et ne pas tenir compte du reste du festin, nous disons, vous vous apprêtez à passer beaucoup de longues nuits avec des filets vides. Vous êtes appelés à revenir, à rester fidèles, à aimer Dieu et à accorder loyalement votre aide. Dans cet appel à une fidélité renouvelée, j'inclus tous les membres rentrés de mission qui se sont un jour tenus dans des fonts baptismaux et ont levé le bras à angle droit en disant « ayant reçu l'autorité de Jésus-Christ ». Cette autorité doit avoir changé votre converti à tout. Jamais. Mais elle est censée vous avoir changé aussi à tout jamais. À la jeunesse de l'Église qui se prépare pour le temple, la mission et le mariage, nous disons, aimez Dieu et restez pur du sang et des péchés de cette génération. Vous avez une œuvre monumentale à accomplir, comme l'a souligné le président Munson dans son annonce merveilleuse d'hier matin. Notre Père Céleste attend de vous l'amour et la loyauté à tous les stades de votre vie. À tous ceux qui entendent ma voix dans cette retransmission, je dis que la voix du Christ retentit du fond des âges et demande à chacun de nous pendant qu'il est encore temps, m'aimes-tu? Et de la part de nous tous, je réponds avec toute la ferveur de mon âme, oui Seigneur, nous t'aimons. Et ayant mis la main à la charrue, nous ne regarderons jamais en arrière, aussi longtemps que le travail ne sera pas terminé et que l'amour véritable de Dieu et du prochain ne régiront le monde. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Beside me, would I do?
are very grateful to the Tabernacle Choir.
Nous remercions le chœur du Tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Thomas S. Monson, notre prophète bien-aimé, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur terminera cette session en chantant « Si la route est dure à suivre, ne crains pas ». Ensuite, Keith R. Edwards, qui a été relevé hier après-midi de son appel de membre des 70, fera la prière de clôture. Président Monson.
Mes frères et sœurs bien-aimés, cette conférence marque le 49e anniversaire de mon soutien comme membre du Collège des 12 apôtres. C'était le 4 octobre 1963. 49 ans, c'est long. Cependant, à divers égards, le temps qui me sépare de mon tout premier discours de conférence générale à la chaire du Tabernacle me paraît très court. Beaucoup de choses ont changé depuis le 4 octobre 1963. Nous vivons à une époque unique de l'histoire du monde. Nous avons la bénédiction d'avoir tant de choses. Et pourtant, il est parfois difficile de regarder les problèmes et la permissivité qui nous entourent sans nous décourager. J'ai remarqué que si au lieu de nous attarder sur le négatif, nous prenons du recul et examinons nos bénédictions, notamment celles qui paraissent insignifiantes et quelquefois négligeables, nous pouvons connaître un plus grand bonheur. En dressant le bilan des 49 dernières années, j'ai fait quelques découvertes. L'une d'elles est que d'innombrables expériences personnelles que j'ai eues n'étaient pas nécessairement de celles que l'on pourrait qualifier d'extraordinaires. En fait, au moment où je les ai eues, elles paraissaient souvent banales et ordinaires. Et pourtant, rétrospectivement, elles ont été un enrichissement et une bénédiction dans la vie de certaines personnes, notamment la mienne. Je vous recommande ce même exercice. Faites le bilan de votre vie et cherchez tout particulièrement les bénédictions, grandes et petites, que vous avez reçues. Mon propre examen de ces années n'a fait que renforcer ma connaissance que nos prières sont entendues et exaucées. Nous connaissons bien la vérité énoncée dans deux Néphis dans le livre de Mormon. Les hommes sont pour avoir la joie. Je témoigne qu'une grande partie de cette joie nous est donnée lorsque nous reconnaissons que nous pouvons communiquer avec notre Père Céleste grâce à la prière et que ces prières seront entendues et exaucées. Peut-être pas de la manière que nous espérons, ni au moment où nous l'attendons, mais elles seront exaucées. Et cela par un Père Céleste qui nous connaît et nous aime à la perfection et qui désire notre bonheur. Ne nous a-t-il pas promis? Sois humble et le Seigneur ton Dieu te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. Fin de citation. Pendant les quelques prochaines minutes qui me sont imparties, je vais vous raconter un minuscule échantillon d'expérience personnelle au cours desquelles des prières ont été entendues et exaucées et qui, rétrospectivement, ont apporté des bénédictions dans ma vie ainsi que celles d'autres personnes. Mon journal intime, tenu pendant toutes ces années, m'a aidé à retrouver certains des détails dont, très vraisemblablement, je n'aurais pas pu me souvenir autrement. Au début de l'année 1965, je suis chargé d'assister aux conférences de pieux et de participer à d'autres réunions dans l'interrégion du Pacifique Sud. C'est la première fois que je me rends dans ce coin du monde. Et ce sont là des jours inoubliables. Beaucoup d'événements de nature spirituelle vont se produire pendant que je m'acquitte de cette responsabilité en rencontrant les dirigeants, les membres et les missionnaires. Le week-end des 20 et 21 février, nous sommes à Brisbane, en Australie, pour une session ordinaire de la conférence du Pieux de Brisbane. Au cours des réunions du samedi, le président du district d'une région voisine m'est présenté. En lui serrant la main, j'ai la forte impression que je dois lui parler et lui donner quelques conseils. Je lui demande alors s'il veut bien m'accompagner à la session du dimanche matin, le lendemain, afin que cela puisse se faire. Après la session du dimanche, nous avons l'occasion de passer un moment ensemble. Nous parlons de ses nombreuses responsabilités de président de district. Pendant la conversation, je me sens poussé à lui faire des suggestions précises à propos de l'œuvre missionnaire et de la manière dont lui et les membres peuvent aider les missionnaires à plein temps dans leur région, sa région. Plus tard, j'apprends que cet homme avait prié pour recevoir l'inspiration à ce sujet. Pour lui, notre rencontre est un témoignage spécial, que ses prières ont été entendues et exaucées. C'était apparemment une rencontre comme une autre, mais une rencontre, j'en suis convaincu, guidée par l'Esprit et qui a fait une différence dans la vie de ce président de district et dans la gestion de son appel, dans la vie des membres de son district et dans le succès que les missionnaires ont rencontré là-bas. Mes frères et sœurs, les desseins du Seigneur se réalisent souvent lorsque nous écoutons attentivement les inspirations de l'Esprit. Je crois que plus nous agissons selon les inspirations et les impressions que nous recevons, plus le Seigneur nous confie de missions. J'ai appris, comme je l'ai mentionné dans des discours précédents, qu'il ne faut jamais tarder à réagir à une inspiration. Un jour, il y a de nombreuses années, je suis en train de nager dans le vieux centre sportif de Deseret à Salt Lake City. Quand je reçois l'impression que je dois aller à l'hôpital de l'université, rendre visite à un bon ami à moi, qui a perdu l'usage des membres inférieurs suite à une tumeur maligne et à l'opération qui a suivi. Je quitte immédiatement la piscine, me rhabille, et rapidement, je me dirige vers le chevet de ce brave homme. Quand j'arrive dans sa chambre, elle est vide. Je m'informe et j'apprends que je le trouverai probablement aux abords de la piscine de l'hôpital qui sert à la rééducation. C'est en effet là que je le trouve. Il s'est dirigé avec son fauteuil roulant jusque-là et le seul occupant de la salle. Il se tient à l'autre bout de la piscine, du côté du grand bain. Je l'appelle. Il manœuvre son fauteuil pour me saluer. Nous passons un moment agréable ensemble et je le raccompagne jusqu'à sa chambre d'hôpital où je lui donne une bénédiction. Il m'apprendra plus tard qu'il était complètement déprimé ce jour-là et envisageait de mettre fin à ses jours. Il avait prié pour être soulagé, mais avait commencé à se dire que ses prières n'avaient pas été entendues. Il est allé à la piscine, pensant que c'était une façon de mettre fin à sa souffrance. Il suffisait de laisser glisser le fauteuil dans le grand bain. Je suis arrivé à point nommé. En réponse à ce qui était une inspiration d'en haut, je le sais. Mon ami a encore vécu de nombreuses années supplémentaires, des années remplies de bonheur et de reconnaissance, que je suis heureux d'avoir pu être un instrument entre les mains du Seigneur ce jour décisif à la piscine. Un autre jour, je roule en direction de la maison en compagnie de Sir Monson, après avoir rendu visite à des amis, quand j'ai l'impression que je dois descendre en ville, un trajet de plusieurs kilomètres, pour rendre visite à une veuve âgée qui autrefois faisait partie de notre paroisse. Elle s'appelle Zella Thomas. À l'époque, elle demeure dans une maison de retraite. Ce début d'après-midi-là, nous la trouvons extrêmement faible, mais paisiblement allongée sur son lit. Zella est aveugle depuis longtemps. mais elle reconnaît immédiatement nos voix. Elle me demande si je veux bien lui donner une bénédiction, ajoutant qu'elle est prête à mourir si le Seigneur veut la reprendre auprès de lui. Un bel esprit de paix remplit la chambre, et nous savons tous que le temps qui lui reste dans la condition mortelle est bref. Zella me prend la main et me dit qu'elle a prié avec ferveur pour que je vienne la voir et que je lui donne une bénédiction. Je lui dis que nous sommes venus à cause d'une inspiration directe de notre Père Céleste. Je l'embrasse sur le front, sachant que je ne la reverrai probablement pas dans la condition mortelle. C'est ce qui s'est passé, puisqu'elle est décédée le lendemain. C'est une bénédiction pour elle et pour moi de pouvoir apporter un peu de réconfort et de paix à notre chère Zella. L'occasion d'apporter une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre se présente souvent de façon inattendue. Un samedi soir particulièrement froid de l'hiver 1983-84, Sœur Monson et moi sommes en route vers la vallée de Midway en Utah, où nous avons une maison. Ce soir-là, il fait 31 degrés au-dessous de zéro. Et nous voulons nous rassurer que tout va bien dans notre maison là-bas. Nous vérifions et constatant que tout va bien, nous prenons la route pour rentrer à Salt Lake City. Nous avons à peine fait quelques kilomètres en direction de l'autoroute que notre voiture tombe en panne. La batterie a lâché. Nous sommes complètement bloqués. Je ne crois pas avoir jamais eu aussi de froid de ma vie que ce soir-là. À contre-cœur, nous commençons à marcher vers la ville la plus proche, tandis que les voitures passent devant nous à toute allure. Enfin, une voiture s'arrête, et un jeune homme nous propose son aide. Nous finirons par apprendre que le gasoil s'est épaissi dans le réservoir à cause du froid, rendant l'usage de la voiture impossible. Ce brave jeune homme nous ramène jusqu'à notre maison à Midway. J'essaie de le dédommager, mais il refuse poliment. Il nous informe qu'il est scout et qu'il veut faire une bonne action. Je me présente et manifeste sa reconnaissance pour l'honneur qu'il a eu de nous rendre service. Supposant qu'il est en âge de partir en mission, je lui demande s'il a prévu de le faire. Il me dit qu'il ne sait pas très exactement ce qu'il souhaite faire. Le lundi matin suivant, j'ai écrit une lettre à ce jeune homme et le remercie de son amabilité. Dans la lettre, je l'invite à partir en mission à plein temps. J'inclus dans l'enveloppe un exemplaire d'un de mes livres où j'ai souligné les chapitres traitant de l'œuvre missionnaire. Environ une semaine plus tard, la mère du jeune homme m'appelle et m'informe que son fils est un jeune homme remarquable, mais que du fait de certaines influences dans sa vie, le désir qu'il avait depuis longtemps de partir en mission a diminué. Elle m'apprend que son mari et elle ont jeûné et prié pour que son cœur soit changé. Ils ont mis son nom sur la liste de prières du temple de Provo. Ils espèrent que, d'une façon ou d'une autre, son cœur sera touché et qu'il éprouvera à nouveau le désir de remplir une mission et de servir fidèlement le Seigneur. La mère veut que je sache qu'elle considère les événements de cette froide soirée comme la réponse à leur prière en sa faveur. Je suis de son avis, lui répondis-je. Au bout de plusieurs mois et de plusieurs communications avec ce jeune homme, Sœur Monson et moi-même sommes enchantés d'assister à ses adieux missionnaires avant son départ pour la mission de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada. Était-ce un hasard si nos chemins se sont croisés cette froide soirée de décembre? Je n'y crois pas un instant. Je crois plutôt que notre rencontre était la réponse aux prières sincères d'un père et d'une mère, aux prières du cœur pour le fils qu'ils chérissent. Mes frères et sœurs, je le répète, notre Père céleste est conscient de nos besoins et nous aide lorsque nous l'invoquons pour recevoir son secours. Je ne crois pas qu'aucun de nos soucis soit trop petit ou trop insignifiant. Le Seigneur est présent dans les détails de notre vie. Je vais terminer par une expérience récente qui a touché des centaines de personnes. Cela s'est produit à l'occasion du spectacle culturel du Temple de Kansas City, il y a à peine 5 mois. Comme dans tant de choses qui se produisent dans notre vie, il nous semblait, sur le moment, que nous vivions une expérience de plus où tout marche comme prévu. Cependant, lorsque j'ai appris ce qui s'était passé la veille de la consécration du Temple pour le déroulement de la célébration culturelle, je me suis rendu compte que le spectacle de ce soir-là n'était pas banal. En fait, il était plutôt remarquable. Comme pour toutes les manifestations culturelles organisées à l'occasion des consécrations de temples, les jeunes du secteur du temple de Kansas City au Missouri avaient répété leur partie du spectacle en groupes séparés dans leur région perspective. Il était prévu qu'ils se retrouvent tous dans une grande salle municipale louée pour l'occasion, le samedi matin du spectacle, afin d'apprendre quand et par où entrer en scène, où se tenir, combien d'espace il fallait laisser entre les figurants, comment sortir de scène, et ainsi de suite. Beaucoup de détails que les jeunes devaient saisir durant la journée, pendant que les responsables coordonnaient les différentes scènes, afin que la représentation finale soit bien rodée et professionnelle. Il y avait juste un gros problème ce jour-là. Le spectacle entier dépendait de séquences préenregistrées qui seraient projetées sur le grand écran vidéo qu'on appelle un jumbotron. Les séquences enregistrées étaient indispensables à la cohésion de la représentation. Non seulement elles reliaient tous les morceaux ensemble, mais de plus, chaque séquence télévisée annonçait la partie suivante. Les séquences vidéo étaient la charpente sur laquelle reposait toute la représentation. Et le jumbotron ne fonctionnait pas. Les techniciens s'acharnaient frénétiquement à résoudre le problème, pendant que les jeunes, des centaines d'entre eux, attendaient, perdant un temps précieux qu'ils auraient dû passer à répéter. La situation semblait être sans issue. Susan Cooper, auteur et metteur en scène du spectacle, a raconté plus tard, « Tout en passant du plan A au plan B, au plan Z, nous savions que cela ne marchait pas. En consultant l'agenda, l'emploi du temps, il paraissait évident que nous étions entièrement dépassés. Mais nous savions aussi qu'à l'étage, en dessous de nous, se tenait l'une des plus grandes forces qui soit, 3000 jeunes. Il fallait que nous descendions leur expliquer ce qui se passait et faire appel à leur foi. À peine une heure avant que les spectateurs ne commencent à entrer dans la salle, 3000 jeunes se sont agenouillés à terre et ont prié ensemble. Ils ont prié pour que les personnes qui travaillaient sur le jumbotron soient inspirées pour savoir ce qu'il fallait faire pour le réparer. Ils ont demandé à leur Père Céleste de faire ce dont ils n'étaient pas capables, compte tenu du manque de temps pour répéter. Quelqu'un qui en a fait le récit plus tard a écrit, « C'est une prière que les jeunes n'oublieront jamais, pas parce que le sol était dur, mais parce que l'Esprit a fait fondre leurs os. » Fin de citation. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'un des techniciens leur dise que le problème était localisé et corrigé. Il a attribué la solution à la chance. Mais tous ces jeunes savaient à quoi s'en tenir. Lorsque nous sommes entrés dans la salle municipale ce soir-là, nous n'avions pas la moindre idée des difficultés de la journée. Ce n'est que plus tard que nous avons été mis au courant. En tout cas, ce à quoi nous avons assisté est un spectacle parfaitement au point, l'un des meilleurs qu'il m'était donné de voir. Il émanait des jeunes, un esprit splendide et puissant que toutes les personnes présentes ont pu ressentir. Il semblait savoir exactement par où entrer sur la scène, où se tenir, comment interagir avec les autres acteurs autour d'eux. Quand j'ai appris que leurs répétitions avaient été courtées et que bon nombre de leurs numéros n'avaient pas été répétés par le groupe entier, j'ai été étonné. Personne n'aurait pu le deviner. Le Seigneur avait effectivement comblé les lacunes. Je ne cesse jamais de m'extasier sur la façon dont le Seigneur peut motiver et diriger son royaume de long en large et avoir encore le temps d'accorder l'inspiration à quelqu'un en faveur d'une autre personne ou d'un spectacle culturel ou d'un jambotron. Le fait qu'il le peut et qu'il le fait est un témoignage pour moi. Mes frères et sœurs, le Seigneur est présent dans la vie de chacun de nous. Il veut nous bénir, nous donner des bénédictions. Il veut que nous demandions son aide. Du fait qu'il nous guide et nous dirige, et qu'il entend et exauce nos prières, nous trouverons le bonheur qu'il désire pour nous ici et maintenant. Puissions-nous être conscients de ces bénédictions dans notre vie. C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Yeah. Holy Father,
notre Père Saint, avec reconnaissance, nous inclinons la tête pour te remercier pour l'expérience édifiante et révélatoire que nous avons eue ce matin. Nous te remercions d'avoir ouvert la tente de ta cachette et d'avoir parlé par tes apôtres et prophètes choisis. Nous te remercions pour des hommes qui ont jeté leur filet et consacré leur vie à nous édifier. Nous te remercions, Père Céleste, pour l'Évangile, et pour ton Fils, pour son sacrifice expiatoire. Et nous avons le désir de placer, nous irons placer sur l'autel devant toi, un sacrifice acceptable d'un cœur brisé, d'un esprit contrit. S'il te plaît, bénis-nous, fortifie-nous, afin que nous soyons déterminés d'être humbles, d'être soumis, d'être faciles à supplier et de pouvoir mettre en pratique les conseils reçus de nos dirigeants. Bénis ceux qui ont besoin d'aide et bénis-nous pour que nous puissions être une ressource pour eux. Bénis ceux qui souffrent et bénis-nous afin que nous puissions soulager cette souffrance. Dirige-nous dans tout ce que nous faisons. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 180th...
Vous venez d'assister à une session de la 132e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.